Bonjour Véronique Lombard.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de pastoralisme. Vous avez été professeur au lycée agricole de Vic en Bigorre. Vous avez notamment participé à l'enseignement d'une licence spécialisée pour le pastoralisme. Il faut savoir, il y a une formation, un bac plus 3, vraiment dédié au pastoralisme. Nous en parlerons en fin d'émission. En tous les cas, aujourd'hui avec vous, on va essayer de comprendre de quoi on parle. On va s'intéresser en particulier au pastoralisme montagnard. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner une définition un petit peu large de ce qu'est le pastoralisme, et puis on va se recentrer sur le pastoralisme montagnard, notamment celui qu'on connaît ici dans les Hautes-Pyrénées.
Donc le pastoralisme, c'est l'ensemble des activités d'élevage où on conduit les troupeaux sur des ressources spontanées, c'est-à-dire de la végétation qui pousse spontanément, en tenant compte des conditions du territoire. En particulier, à certains moments, ces ressources ne sont pas disponibles et donc le pastoralisme nécessite une transhumance pour aller sur des territoires qui soient accessibles à certains moments.
Ça veut dire quand il neige, c'est pas possible, donc on bouge, on va ailleurs. Si c'est trop sec, c'est pareil, il n'y a rien pour les bêtes, on bouge, on va ailleurs.
Voilà. Et aussi quand c'est trop humide, par exemple dans les marais atlantiques, où on peut aller que dans des périodes où c'est assez sec, parce que sinon c'est trop humide.
Quand on vous entend donner cette définition, Véronique Lombard, on se dit qu'en fait finalement c'est, pardon pour l'expression, mais c'est du bon sens paysan tout simplement. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ?
Oui, mais les paysans, ils n'avaient pas trop le choix. C'est tous ceux qui habitaient en zone de montagne ou proche des montagnes. Ils avaient besoin de ressources pour leurs troupeaux. Et ces ressources, elles étaient à certains moments en estive.
Sinon, parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités.
Il n'y avait pas d'autres possibilités. En bas, il fallait faire les foins pour l'hiver ou les cultures pour la famille. Dans les zones intermédiaires, il fallait faire aussi les foins. Mmh. Et puis en haut, il y avait de l'herbe, mais qu'en été.
Donc c'est une manière d'occuper le territoire, à la fois pour les bêtes, mais aussi pour l'humain, quoi. Mmh.
Oui, avec des déplacements, des bêtes, des troupeaux et des hommes.
Depuis quand on parle de pastoralisme ? Ça a toujours existé ?
Les premiers troupeaux, il y a eu des recherches qui ont été effectuées dans les montagnes et les premières traces de pastoralisme, c'est il y a 5000 ans, dans les estives par exemple. Donc c'est très très ancien, c'est une pratique qui est très ancestrale.
Qu'on a un petit peu abandonné quand même à une période.
On n'a pas vraiment abandonné, on a abandonné certains secteurs. Mais le pastoralisme, dans les montagnes françaises, il a jamais été abandonné. On en parlait moins, et surtout on ne le mettait pas en évidence. On le considérait mal, même dans les années 60, on a considéré que c'était un peu une pratique un peu arriérée, on pourrait dire presque.
Et pourquoi ? Parce que finalement, on avait sous la main d'autres solutions qui semblaient plus faciles et...
Parce que c'était l'époque où on raisonnait tout tracteur, mécanisation, intensification, engrais, pesticides, etc. Toutes ces choses qu'on ne peut pas utiliser en montagne.
Enfin. Donc là, on revient à ce qu'est vraiment le pastoralisme avec des...
On ne revient pas, ça n'a pas été abandonné.
Mais en tous les cas, ça n'a plus cette
connotation négative de pratique un peu arriérée.
Ouais.
Au contraire, c'est peut-être une pratique très moderne qu'il faut réinventer en permanence aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a réinventé dans le pastoralisme, puisqu'en fait, finalement, c'est l'observation et vivre avec ce que la nature offre. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé ?
Y a plusieurs choses. Déjà, le contexte foncier a beaucoup changé.
Comment ça ?
Et le contexte humain a beaucoup changé.
Oui, alors on va parler des acteurs aussi après. Mais
le contexte humain, il a beaucoup changé parce qu'il y avait énormément d'éleveurs dans les zones de montagne. Et à partir des années 1860-70, ça a commencé à descendre tout doucement. Et puis à certains moments, ça est descendu très très vite. Et tous ces bras qui manquent, ça peut pas permettre de faire le même pastoralisme qu'autrefois.
Donc aujourd'hui, c'est un pastoralisme... Comment qui s'organise ?
Alors, c'est un pastoralisme qui s'organise autour d'outils juridiques. On a des associations foncières pastorales qui permettent de regrouper le foncier, qui est tout éparpillé entre plein de propriétaires qu'on ne connaît pas d'ailleurs, forcément.
Ouais.
On regroupe aussi les éleveurs qui sont de moins en moins nombreux. Autrefois, tous les éleveurs, ils venaient du village.
Mmh. Donc, alors que maintenant, sur une parcelle en montagne, il y a des bêtes de différents éleveurs qui sont pas forcément
qui viennent de l'extérieur, ouais. C'est-à-dire qui sont ni du village ni de la vallée, qui viennent d'autres départements. Et puis, on a mis en place des conventions pluriannuelles de pâturage entre les propriétaires et les gestionnaires. Donc, en fait, les acteurs au niveau pastoral, ben, y a les propriétaires du foncier. Alors, pour prendre l'exemple des Hautes-Pyrénées, c'est beaucoup, les propriétaires, c'est beaucoup des communes, par exemple, qui ont beaucoup de terres. Toutes les estives sont en grande partie en propriété communale dans les Hautes-Pyrénées. Dans d'autres départements, c'est autrement, mais dans les Hautes-Pyrénées, c'est beaucoup les communes qui sont propriétaires ou les regroupements de communes.
Donc, c'est le premier acteur. Le premier acteur, ce sont les propriétaires, donc souvent les municipalités.
Oui, ou ailleurs, ça peut être des privés, voilà. Ou ça peut être l'État.
Ça veut dire que derrière, il y a un système de location.
Exactement, c'est ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles de pâturage. Et comme les éleveurs n'étaient plus très nombreux, on a créé ce qu'on appelle les groupements pastoraux, où c'est un groupement d'éleveurs pour gérer ces estives. Alors les estives, le deuxième acteur, après les propriétaires, c'est les gestionnaires. Qui gèrent ? Eh bien, ça peut être les communes elles-mêmes, oui. Qui gèrent elles-mêmes leurs estives, mais ça peut être les groupements pastoraux, les groupements d'éleveurs. Après, ça peut être à la marge d'autres acteurs qui gèrent ces estives.
Et ça c'est un modèle, enfin, ça se passe bien.
Les associations de propriétaires, par exemple, peuvent être aussi les
gestionnaires.
Gestionnaires, voilà. Et bah oui, enfin ça se passe. Enfin c'est comme des relations humaines. Hein, il y a toujours, il peut y avoir des conflits, mais enfin globalement.
Ouais, enfin c'est quelque chose qui est organisé et qui.
Et voilà. Et ça c'est des outils récents.
Ouais, d'accord.
1972.
Ouais. Ouais, donc c'est très récent.
Donc c'est pas ancestral ça. Ouais. Il y avait d'autres pratiques qui ressemblent à ça, mais on a créé des outils juridiques. En 72, pour défendre justement ces activités pastorales.
Alors ça, ce sont les acteurs, les éleveurs. Les éleveurs des acteurs incontournables.
Quand je disais le groupement pastoraux, c'est des groupements d'éleveurs. Donc il y a les éleveurs qui sont les propriétaires des troupeaux, mais pas forcément du foncier. Oui. Ça dépend où. Et puis ces éleveurs, ils confient leurs troupeaux à des gardiens salariés.
Des bergers, quoi.
Ou pas, ça dépend. Hein. En Pyrénées-Atlantiques, les éleveurs, c'est eux-mêmes qui gardent leurs troupeaux et qui font la traite pour faire des brebis, hein, pour faire des fromages. Mais donc ces gardiens, c'est des bergers pour les brebis ou des vachers pour les vaches. Mm-hmm. Quelquefois, c'est des gardes qui sont pas vraiment tout le temps sur les troupeaux, mais qui font le tour de la vallée pour voir si tout va bien, le tour des estives.
Ah oui, alors ça c'est important parce que du coup vous êtes en train de nous dire que les vachers ou les bergers ou les gardiens, ils veillent sur les bêtes mais aussi sur l'espace.
Eh oui.
Ça c'est quand même important ça. Oui. Ils ne sont pas là que pour les bêtes l'espace, ils font les deux.
Ils ont un travail qui est très pointu,
ouais.
Parce qu'ils doivent tout connaître sur les bêtes, beaucoup de choses en tout cas, mais ils doivent aussi connaître l'espace et avec les végétations. Qui sont intéressantes ou moins intéressantes. Ouais. Ils doivent donc savoir gérer un espace pour toute une saison d'estive. Ils doivent être en relation avec les éleveurs, avec les élus. Mmh. Ils doivent être en relation avec le public qui fréquente les espaces, c'est-à-dire les autres
Les gens qui se promènent. Ah voilà. Oui, effectivement, parce que quand on parle des acteurs, on pourrait passer à côté de cette catégorie-là, oui. Mais il y a des gens qui promènent en montagne.
Il y a des gens qui se promènent et il y a des gens qui travaillent. Par exemple, il y a des estives qui sont dans les stations de ski et pendant l'été, il y a toute l'équipe d'entretien des remontées mécaniques, des pistes, etc., qui travaillent aussi. Et puis, il y a les chantiers hydrauliques, enfin, les barrages.
Alors là, vous êtes en train de nous dévoiler des coulisses qu'on ne soupçonne pas, ou enfin, en tous les cas, auxquelles on ne fait pas attention.
Et oui, il y a beaucoup de monde qui... Alors, autres acteurs qui sont dans les estives, c'est les chasseurs. En fin de saison, ils peuvent commencer à intervenir aussi. Et puis, il y a tous les environnementalistes, soit des naturalistes qui étudient
Les espèces.
Les espèces, les végétaux, les animaux, ou bien des gens qui veulent s'informer, ou bien qui veulent faire de la photo. Enfin bon, il peut y avoir beaucoup de monde dans la montagne. Il n'y a pas que les troupeaux, les bergers, les vachers.
Oui, alors c'est marrant parce que éleveurs. Quand on se promène en montagne et qu'on croise ici ou là un troupeau, on s'imagine pas que d'abord qu'il y ait autant d'acteurs autour, qu'on n'est pas seul avec, et on ne s'imagine pas non plus l'impact que ça peut avoir sur les animaux, sur le territoire. Bon, là, si on est un peu malin, on peut s'en douter, mais on ne s'imagine pas non plus que notre passage, mine de rien, il est organisé quand même. Il y a un cadre à tout ça. Ce cadre législatif, il est là aussi pour protéger tous ces acteurs. Mais j'imagine que pour que tous ces acteurs puissent cohabiter, même s'ils ne se croisent pas forcément, y a des systèmes d'assurance, etc. derrière.
Il y a beaucoup de choses. Vous avez par exemple le territoire des Hautes-Pyrénées. La plupart des estives, elles sont classées Natura 2000, ou elles sont dans les parcs ou dans les réserves.
Ouais.
Donc y a aussi ces cadres-là.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Par exemple, moi, je suis éleveur, je veux emmener mon troupeau en transhumance sur un territoire qui est dans la réserve naturelle, du Pibest. Ça change quoi pour moi, éleveur? À quoi je dois faire attention?
Tous ces territoires, ils sont gérés par des conseils, on va dire, qui sont multipartenariales. C'est une gestion collective où tous ces acteurs dont on a parlé, leurs représentants plutôt, interviennent pour définir un plan de gestion. Et donc l'éleveur, il n'est pas 100% libre. Aujourd'hui, les éleveurs d'une commune sont pas... Ça dépend, mais s'il y a des pratiques, des contraintes environnementales, ils ne peuvent pas tout à fait faire tout ce qu'ils veulent. Par exemple,
ils ne se réveillent pas un matin en disant « Tiens, allez hop, aujourd'hui, non. J'emmène les bêtes et j'irai les chercher dans 2 mois. »
Et d'autant plus qu'il y a aussi des contraintes économiques. Il y a la politique agricole commune. On ne peut pas aller d'un seul coup dire « Je vais en montagne parce que j'y ai droit, etc. » Parce que, en fait, il y a des droits à prime qui ont été définis pour telle et telle personne. Et il y a des cadres économiques, il y a des cadres environnementaux, il y a des cadres techniques.
Donc, pardon, mais je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser cette question-là, mais derrière tout ça, il y a de l'administratif, il y a de la paperasse. Au micro de Radio Présence, on a souvent et on reçoit encore souvent des agriculteurs qui sont fatigués, qui en ont marre pour un tas de raisons, mais il y a quand même une raison qui remonte quand même tout le temps au-dessus de la pile, c'est la paperasse administrative. Or, vous êtes en train de nous expliquer, Véronique Lombard, que pour pouvoir vraiment bien faire le pastoralisme, ce que nos éleveurs ici dans les Hautes-Pyrénées ont envie de faire, en tous les cas beaucoup d'entre eux, eh bien, il faut qu'ils passent par cette case administrative qui est un peu lourde et chronophage et pour laquelle ils ne sont pas toujours... Enfin, en tous les cas, ce n'est pas ce qui les passionne, a priori.
Ben non. Et puis, par exemple, il y a un service pastoral qui existe dans la plupart des départements, enfin dans tous les départements où il y a du pastoralisme.
Oui.
C'est des animateurs et des techniciens qui vont aider les gestionnaires d'estives à faire cette phase administrative pour faire des demandes, pour avoir des subventions, pour faire des cabanes ou pour faire des parcs de tri, mais aussi pour faire les demandes pour les primes PAC, ce qu'on appelle les primes PAC, ou pour faire des projets agro-environnementaux climatiques, les PAEC. Il y a ces services les aident parce qu'effectivement, ils sont noyés sous des contraintes administratives.
Vous avez enseigné le pastoralisme au lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Vous l'avez enseigné pendant pas mal d'années. Est-ce que entre le début où vous l'enseignez et la fin, il y a des défis nouveaux qui sont arrivés? Est-ce que les choses ont changé en bien, en moins bien? Pour vous, c'est quoi vraiment les enjeux et les défis aujourd'hui?
Alors, ce qui s'est passé pendant ma période, là, entre 2007 et 2023, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une revalorisation des aides pour les montagnes. Et donc ça a entraîné, au niveau des jeunes qu'on avait en formation, beaucoup plus d'installations en zone de montagne. Donc ça, c'est plutôt les aspects positifs.
Oui.
Et on espère que les primes continueront à soutenir les agriculteurs de montagne. À côté de ça, par contre, il y a eu des évolutions pas faciles. Moi, j'ai vu l'évolution de l'impact des grands prédateurs. ours,
l'ours et loup,
et loup qui sont quand même vraiment un grand défouillis pour le monde pastoral, qui s'étaient, pour des raisons économiques, habitués à envoyer les troupeaux sans gardien, et qui finalement, ils ont été obligés de remettre en place du gardiennage un peu plus structuré, parce que sinon, c'était pas possible, quoi. C'était le garde-manger des ours et des loups.
Oui, alors ça, c'est important quand même. C'est pas une lubie, c'est pas une légende. Oui, aujourd'hui, en 2025 ou 2026, il y a des éleveurs dont les bêtes se font manger par des ours ou des loups dans les Hautes-Pyrénées.
En tout cas, sur...
Enfin, ça arrive. C'est pas imaginaire.
C'est pas tout le temps, mais oui,
y en a... On a des chiffres là-dessus. On peut dire...
On a les chiffres du nombre... Oui, mais là, je les ai pas.
En tous les cas, c'est recensé. Recensé, ça fait l'objet de...
On n'a pas loin d'une centaine d'ours, actuellement, sans doute, dans les Pyrénées, françaises et espagnoles.
Ouais.
Les loups sont sans doute, au niveau national, pas loin des 1000. Ça se développe, ces espèces se développent, et y a un impact sur les troupeaux. Mais pas seulement maintenant, pas que en estive, ça peut être aussi en bas, dans les vallées, dans les plaines, etc.
Est-ce que des éleveurs renoncent au pastoralisme après l'avoir peut-être retrouvé ou tout juste retrouvé à cause de ces grands prédateurs ?
Ça peut arriver, oui. Oui, oui, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est la prédation. Mais j'ai entendu des éleveurs dire que ce qui était le pire maintenant, c'était l'activité touristique. Parce qu'il y a un tel afflux touristique sur les estives. Eux, les éleveurs, ils sont obligés d'avoir des patous ou d'autres chiens de garde des troupeaux pour lutter contre principalement les ours et les loups.
Oui.
Mais ces chiens de troupeaux, ils ont des conflits avec les touristes.
Et les chiens des touristes.
Les chiens des touristes.
Qui sont parfois pas attachés, mais c'est interdit. On le rappelle quand même.
C'est un deuxième enjeu. Et l'activité touristique qui s'est développée après les confinements est énorme. Et on a vu une nouvelle population arriver en montagne qui n'était pas habituée, qui ne connaissait pas du tout et qui n'avait pas les comportements adaptés.
Ça veut dire quoi ? C'est quoi un comportement pas adapté en montagne ?
C'est aller en plein milieu d'un troupeau de vaches avec des veaux et vouloir mettre un enfant sur une vache ou sur un veau pour faire une belle photo. Ben, la vache, elle n'est pas d'accord, hein. Ou traverser le troupeau, un troupeau qui est paisible en train de manger, bon, il n'y a pas forcément des veaux, mais le traverser éventuellement avec un chien, et ben non, un troupeau ça se contourne, ça se traverse pas.
Et oui, bien sûr.
Et parce que si on le traverse, alors quelquefois on ne peut pas faire autrement parce qu'il n'y a qu'un chemin, mais la plupart du temps on peut contourner. Donc, ou courir après les vaches, les faire lever alors qu'elles étaient toutes couchées. Enfin, bon, c'est dangereux. Hein. C'est des animaux qui sont lourds, ils sont dangereux. Simplement parce qu'ils sont lourds, même s'ils sont pacifiques.
Oui, même sans être agressifs, ils sont lourds et ce sont des animaux. Mmh. Donc,
maintenant, les éleveurs ont tendance à dire que le problème du multi-usage, enfin du tourisme, est plus important que les grands prédateurs, parce qu'ils ont mis en place des choses par rapport aux grands prédateurs. C'est pas facile, mais bon, les touristes, c'est compliqué aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Mais petit à petit, il y a des mises en place de la médiation.
Ouais.
Il y a des médiateurs en montagne, qui sont dans les zones surtout des parcs,
ouais,
qui viennent voir les touristes et qui leur expliquent les choses.
Mm.
Parce que personne n'est vraiment sensibilisé. Puis bon, maintenant, on n'a plus des grands-parents qui sont agriculteurs. On ne connaît pas bien. Hein. Les citadins, ils ne savent pas. Voilà, ça c'est un deuxième enjeu très important. Puis le troisième enjeu, c'est le changement climatique,
ouais,
qui provoque des problèmes de manque d'eau et d'herbe en zone de montagne, alors que c'était justement... un peu la panacée jusqu'à présent.
Alors là, dans les Hautes-Pyrénées en tous les cas, mais c'est le cas un petit peu partout sur les massifs montagnards, il y a beaucoup de neige. Alors on peut se dire, s'il y a beaucoup de neige, tous les cours d'eau seront à fond, seront à bloc pour toute la période printemps, été, et pas de problème pour les troupeaux.
Le problème qu'on a maintenant, et vous l'avez constaté ce mois de décembre, janvier, c'est que il tombe de la neige, mais la neige, elle n'est pas consolidée. C'est-à-dire qu'il ne fait pas assez froid pour que la neige se transforme et reste donc au printemps longtemps.
Oui.
Elle peut fondre très très vite et si elle part, eh ben, il n'y a plus d'eau. Et puis, il y a quand même, il manque des orages et des pluies en été. Hein, qui, avant, maximum, On attendait 15 jours pour un orage. Là, il y a des périodes où il n'y a pas d'orage, donc il n'y a pas d'eau.
Donc concrètement, ça veut dire que pour les éleveurs, avec ces défis-là que vous nous citez, notamment le dernier, là, cet enjeu, ce défi climatique, ce changement climatique, ça veut dire, pour que tout le monde puisse quand même faire un peu de pastoralisme, que les troupeaux restent moins longtemps, ou comment ils peuvent s'organiser pour que tout le monde y trouve son compte quand même ?
Plutôt parce qu'en septembre, il n'y a plus d'herbe, alors que normalement, il y aurait dû y en avoir, mais il n'y en a plus. Ouais. Et puis on met en place des outils pour garder l'eau. Par exemple, ça s'appelle les impluviums. On creuse des espèces de grandes piscines dans la montagne. Donc la neige, elle s'accumule là. Et ça fait une ressource d'eau au moment où on a besoin d'abreuver les troupeaux.
Et ça existe déjà ?
Ah oui, ça existe et dans les Hautes-Pyrénées.
Il y en a
oui.
un peu partout ?
On essaye un peu partout en France, dans zone de montagne.
Et
là
qui finance ça ?
Alors voilà, un autre enjeu, c'est tout ce qui est financement.
Ouais.
Alors, il y a des départements qui soutiennent. Les Hautes-Pyrénées soutiennent en particulier le gardiennage, l'aide au ouais. gardiennage. Il y a les régions, l'Europe... L'État-Europe, hein, le partenariat État-Europe, qui finance les travaux à hauteur, alors ça dépend des zones, ça dépend différents critères, mais à hauteur de 60 à 80% des investissements.
Donc ça réduit quand même le coût pour les,
ouais.
pour les éleveurs.
Mais sinon, il n'y aurait
ils sont
plus
pas
rien.
Donc
c'est un enjeu qui est très important, le financement. S'il n'y a plus de financement, les éleveurs ne vont pas y arriver. Un berger, si on le paye, s'il est correct, s'il travaille bien, il peut être entre 1000, pas loin de 2000 euros du mois, voire plus. Plus les charges sociales, plus les frais, plus il lui faut une cabane à peu près aux normes, c'est-à-dire enfin, qu'il y ait quand même l'eau, qu'il y ait quand même un chauffage.
Oui.
Voilà, ça complique, ça coûte cher tout ça. Mais si on veut... entretenir la montagne, c'est quand même ce qui est le moins cher,
voilà,
les troupeaux.
Alors justement, on va bientôt arriver au terme de cette émission, mais en tous les cas, vous dites pour entretenir la montagne. On entend parfois, alors c'est peut-être des voix ou des camps qui s'opposent, mais c'est bien aussi d'être dans le dialogue et d'essayer de se comprendre. Des personnes qui disent, mais on n'a qu'à laisser la nature faire, et puis tant pis, on ne va plus en montagne, ni les bêtes, ni les hommes. Et on laisse la faune et la flore se développer comme ils ont envie de se développer. Ça veut dire plus de pastoralisme non plus. Ça veut dire qu'il faudrait laisser les choses aller. Alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? En quoi le pastoralisme, il sert le territoire ?
Voilà. C'est une idée. C'est une idée qu'on peut défendre, effectivement. Le problème, c'est qu'on veut aussi continuer à faire du tourisme en montagne. Et les touristes, ils ne vont pas venir dans une montagne qui est complètement boisée. Parce que là, par exemple, les Pyrénées, c'est boisé jusqu'à 2000 mètres versant sud. C'est quand même boisé. Naturellement, ça, tout serait boisé. Personne n'aura envie de venir faire du tourisme dans un
zone boisée. Mais on ne fait pas du pastoralisme pour le tourisme, quand même.
Non, mais je veux dire... Le paysage tel qu'on le voit aujourd'hui, il a été mis en place grâce au pastoralisme pendant 5000 ans.
Il a été façonné par le pastoralisme.
Puis, voilà. Si on arrête, et d'ailleurs il y a des zones qui sont difficiles, qui sont en déprise, c'est un des autres enjeux, des zones en déprise, ça fait des friches. Dans un premier temps, il peut y avoir beaucoup d'espèces arbustives type fougères, ronces, genévriers, rhododendrons et autres, et bruyères, etc. Mais dans un deuxième temps, tout ce qui est en dessous, en tout cas sur 2600 mètres d'altitude, c'est toute la forêt qui va pousser.
Ah oui.
Et même jusqu'à 2000. Surtout avec le réchauffement climatique. Donc, ça veut dire que c'est plus des territoires accessibles. C'est des territoires qui s'appauvrissent au niveau biodiversité. Parce qu'en fait, le fait que ça a été ouvert, qu'il y ait moins de forêts, il y a eu beaucoup plus de biodiversité dans tous ces territoires. Donc, voilà,
en fait,
on peut choisir.
Ça peut se défendre, mais il faut choisir.
Voilà, exactement. Et puis, y a des gens qui vivent dans les vallées. Alors, on va aller tous les mettre dehors. Enfin, voilà, c'est aussi humain comme enjeu.
Ma dernière question, Véronique Lombard, est au sujet de cette licence dont on a parlé, qu'on a évoquée en début d'émission, puisque en tant que professeur au lycée agricole de Vic, vous avez été très investi dans cette licence. Donc c'est une formation diplômante en 3 ans
Alors, c'est une formation en un an qu'on fait après un bac plus deux. Donc, soit on a fait un BTS, soit on a fait deux années d'université.
En tous les cas, il y a un diplôme.
Ou un IUT.
Il y a un diplôme propre au pastoralisme.
Et c'est une licence qui s'appelle Montagne et pastoralisme. Elle n'est pas complètement fermée que sur le pastoralisme, mais c'est quand même l'axe principal de cette licence. Et l'objectif, c'est de former des animateurs qui vont accompagner, ou des techniciens qui vont accompagner l'ensemble des personnes, des gestionnaires d'estives. Souvent, les gestionnaires d'estives, ils ne sont plus éleveurs. C'est des élus, des communes. Ils ne connaissent pas, pas forcément très bien le pastoralisme.
Donc, ça s'apprend.
Ça s'apprend, voilà. Donc, cette licence, elle se fait à foie. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de promotions qui sont sorties. Et un certain nombre de ces étudiants, ils travaillent dans l'accompagnement des éleveurs, des regroupements de propriétaires, des élus, etc.
Les jeunes s'intéressent au pastoralisme. En tous les cas, ici, vous sentez que c'est un sujet qui intéresse et qui intéresse aussi les plus jeunes?
Ça intéresse certaines personnes dans toutes les générations. Mais il y en a d'autres, non.
Merci beaucoup, Véronique Lombard, pour vos réponses. On a bien décortiqué le pastoralisme et vous êtes la bienvenue sur l'antenne de Radio Présence quand vous voulez pour continuer à aborder ce sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous.